réplique, les faits et les sentiments avec Eugénie Bastier et Géraldine Mulman. Les faits sont têtus, disait Lénine. Le léninisme, cependant, s'est employé à démentir cette observation. Le régime issu de la Révolution d'octobre n'a épargné ni les hommes, ni les faits qui s'écartaient du droit chemin de l'idéologie. Avec l'effondrement du communisme et la chute du mur de Berlin, cette idéologie a été vaincue. Dans nos sociétés démocratiques, la presse n'est pas muselée, les éditeurs ne rendent des comptes qu'au public, l'État ne contrôle pas l'information et il se garde de toute censure. Mais suffit-il que les faits ne soient pas aux mains du pouvoir pour qu'ils soient en sécurité? C'est ce que nous verrons avec la philosophe bien connue de nos auditeurs, Géraldine Mulman, qui publie Pour les faits, et la journaliste Eugénie Bastier, qui réunit ses chroniques du Figaro sous le titre « La dictature des ressentis ». Pour les faits, écrivez-vous, Géraldine Mulman, si vous prenez leur défense, c'est que Lénine continue d'avoir tort. Les faits sont et demeurent fragiles. D'où vient aujourd'hui la menace? Qu'est-ce qui met en danger les vérités factuelles, Géraldine Mulman?
Effectivement, les faits sont fragiles et ça peut être un peu étonnant que je commence par ce premier chapitre intitulé ainsi, La fragilité des faits, alors même que j'écris un livre pour les faits. D'une certaine façon, je ne me suis pas simplifié la tâche et je l'ai assumé. Je pense qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est grande dans les démocraties occidentales. La possibilité de converser les uns avec les autres est géante, c'est-à-dire que nous pouvons traverser les frontières, nous pouvons nous parler en direct, et les réseaux sociaux sont l'exemple paradigmatique de ce discours constant et même vertigineux. Un point essentiel pour moi, problématique, c'est que nous sommes dans le discours, justement, presque tout le temps, et d'ailleurs aussi beaucoup dans les médias traditionnels, et non pas dans le récit. Je reprends là la distinction de Gérard Genette. Le discours, c'est une humeur, c'est une opinion, c'est ce qui prime aussi dans la conversation. On dit « je », on assume une subjectivité, il n'y a aucun problème. Le récit, c'est autre chose. Par nature, comme dit Genette, le récit exige d'objectiver un peu les événements dont on parle. Il y a une dimension d'objectivité, même si l'énonciateur ne disparaît jamais complètement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dit Genette, le récit ne va pas de soi. Il interrompt les conversations, il crée un moment particulier où on raconte les faits, l'enchaînement des événements. Il exige du temps et de l'attention. L'information moderne est née en donnant la priorité au récit sur les discours. Ça s'est passé aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Ça a gagné toute l'information démocratique moderne. Ça prétendait, et c'est exact, rassembler bien plus de monde que des discours où des subjectivités assumées sont peut-être par nature clivantes. Je pense que le récit, et notamment journalistique, est gravement en crise, et les gens s'informent à travers les humeurs et les opinions des uns et des autres, bien plus qu'à travers des récits factuels. La place du récit rapetisse. Je suis inquiète de cela.
C'est d'ailleurs aussi votre inquiétude, Eugénie Bastier.
Oui,
la dictature des ressentis,
oui,
c'est cela que...
Je crois effectivement que la question des faits a longtemps été débattue. On peut prendre la grande question du négationnisme dans les années 80, qui montre bien que là même, il y avait une discussion sur les faits. Certains ne voulaient pas les reconnaître. Mais il me semble que ce qui est nouveau, c'est la disparition de l'idée même de faits consensuels, qu'il y aurait des faits qui pourraient être partagés par tous. Et je crois que c'est lié à une double révolution. Qui, avant tout, il faut quand même parler d'une révolution technologique, qui est l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, qui qui globalise l'information de façon inédite. Et effectivement, on le voit, le récit peut être partagé lorsqu'il touche une communauté qui est assez soudée autour de certains thèmes. Et ce à quoi on assiste avec la globalisation, c'est forcément un deux poids deux mesures permanent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intéresser à tous les conflits du monde, on ne peut pas s'intéresser à tous les mêmes faits. Donc effectivement, il y a une accusation permanente de ne s'intéresser plus à certains faits que d'autres. C'est le cœur de la question qui se pose aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien, où on a des pays du sud global qui accusent l'Occident de ne s'intéresser qu'à certains morts et vice-versa. C'est évidemment une conséquence de la globalisation, parce que dans un monde où effectivement tout peut se savoir, où l'on peut être informé de tout en permanence, immédiatement, il y a forcément une sélection qui se fait. Cette sélection est forcément liée à des biais et elle introduit forcément un deux poids deux mesures, un procès en deux poids deux mesures. Donc je crois que ça, on ne le changera pas. La globalisation est là, la globalisation technologique est là, et je pense qu'il faut avoir une certaine modestie, justement admettre aussi notre côté situé, admettre que nous nous sommes toujours engagés véritablement dans un regard. On sait que Max Weber parlait de la guerre des dieux, c'était le polythéisme des valeurs. Nous sommes passés de la guerre des dieux à la guerre des yeux, c'est-à-dire du polythéisme des valeurs au polythéisme des faits, et c'est une donnée que malheureusement nous ne pourrons pas changer parce que nous sommes dans ce monde-là et qui exige, je pense, une modestie pour reconquérir la confiance du public.
Vous êtes d'accord avec cela, Jean-Marc ?
Oui, juste pour ajouter, vous parliez de Weber, mais Max Weber dit autre chose, c'est que la figure, alors il l'appelle du savant, mais du chercheur et je pense du journaliste, c'est aussi de dépasser le polythéisme des valeurs et de faire attention, y compris aux faits inconfortables, comme il disait, les faits inconfortables pour les valeurs mêmes que nous pouvons défendre. Et cette sensibilité à des faits qui ne nous plaisent pas est une chose essentielle qui, évidemment, lorsqu'on théorise dans l'ambiance actuelle le « à chacun ses faits », disparaît de manière terrifiante.
Ah, ça rebondit, si j'ose dire, sur cette expression de « fait inconfortable ». Parce que vous parlez de la distinction introduite en fait par Benveniste et creusée par Gérard Genest entre discours et récit. Et moi, je m'interroge justement sur le récit lui-même. L'idéologie, comme l'a montré Arendt, est en fait un grand récit. C'est-à-dire, l'idéologie, c'est une philosophie de l'histoire. L'histoire va dans tel ou tel sens. Et philosophie de l'histoire, le terme, on le doit à Hegel, qui dit « la philosophie n'a d'autre but que d'éliminer le hasard ». Autrement dit, la distinction entre les vérités de fait et les vérités de raison se trouve aboli. Tout ce qui est réel et rationnel, toute vérité de fait, doit avoir une raison. Eugénie Bastier, vous parliez du négationnisme. C'est très intéressant. Le négationnisme s'est épanoui dans l'ultra-gauche. Pourquoi ? Parce que l'existence des chambres à gaz heurtait un certain récit, celui de la lutte des classes. Comment pouvons-nous penser que les nazis se seraient privés d'une main-d'œuvre gratuite ? Donc ils ne l'ont pas fait. C'est une sorte de logique effroyable qui a donné le négationnisme. Et aujourd'hui, on peut s'interroger aussi sur la fragilité des vérités de fait au nom non plus du marxisme, mais par exemple de l'antiracisme qui a en quelque sorte succédé dans la vision de l'histoire à la lutte des classes. Vous parliez aussi, Eugénie Bastier, des questions qui tournent autour de la guerre de Gaza. Il y a demain une manifestation contre l'antisémitisme. Et tout le monde se réveille. Et j'ai ici un livre publié, je reviendrai d'ailleurs sous la direction de Georges Bensoussan, Une France soumise. Et il y a un article qui porte justement sur une manifestation antisémite en plein Paris. C'était en 2015. Place Saint-Michel, un panneau qui indiquait « citoyen musulman » et un homme qui tenait un discours qui allait bien au-delà de la politique extérieure d'Israël. Il était chargé d'une haine fanatique, d'une violence effarante. Donc la personne qui voit cela est avec son mari, elle essaye d'interpeller l'orateur, ils se font intimider, donc exfiltrer par la police. Mais ce qui est très intéressant, elle dit « j'ai aussitôt rédigé un témoignage de ce que nous avions vécu dans l'après-midi et l'ai adressé à différents journaux, Le Monde et Libération, qui m'ont envoyé un accusé d'arrestation automatique, rien de plus. Un seul journal a publié en ligne. Nous étions en 2017. Aujourd'hui, on découvre cet antisémitisme. Mais il existait. Il y avait de nombreux témoignages. Simplement, il heurtait un certain récit, parce que ça stigmatisait, comme on disait, une jeunesse en déshérence, et l'antisémitisme ne devait exister qu'à l'extrême droite. Donc, vous voyez, on a l'impression quand même que la modestie du scrupule est remplacée de plus en plus par la vigilance. Le scrupule, ça rapporte modestement, justement, les vérités factuelles. La vigilance, ça censure impitoyablement tous les faits qui sortent du cadre du grand récit, antiraciste ou antifasciste. Est-ce que c'est pas ça l'un des grands problèmes de notre temps, Géraldine Mühlmann?
Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Bien sûr, il y a eu un antisémitisme de l'ultra-gauche que vous avez évoqué. J'aurais quand même rappelé, demandé à des gens comme Nadine Fresco qui se sont battus contre le négationnisme dans les années 70-80, il y a eu un antisémitisme de la droite antisémite considérable en France. On ne peut pas non plus l'oublier. Maintenant, l'idéologie, au sens d'Arendt, qui permet de ne pas prendre en compte certains faits. Je ne crois pas que ce soit du récit au sens de Gérard Genette. Même si vous avez raison, on évoque là des grands récits. Je pense que, comme le dit Arendt, l'idéologie, c'est la logique d'une idée. Les idéologistes sont avant tout des raisonnements qui ont pour nature de nous protéger de la réalité. C'est pratiquement dans ces termes, d'ailleurs, qu'elle les décrit. Et je dirais que ça marche toujours. Et souvent, ce n'est pas du récit qu'on propose quand on veut établir, disons, un tableau qui met de côté certains faits. C'est un mécanisme de pensée. C'est un déni. C'est autre chose. Je vais prendre deux exemples, un atroce et caricatural. Un, à mon avis, inquiétant aussi. En Cisjordanie, trois jours après le 7 octobre, des reporters ont raconté qu'ils ont rencontré beaucoup de personnes, y compris éduquées, qui leur disaient « mais l'attaque du Hamas n'a pas eu lieu. C'est une fake news. » Ou alors, ce sont les Israéliens qui ont tiré sur leur propre jeunesse pour justifier l'entrée en guerre. Ça, c'est pas du récit, c'est même tout le contraire. C'est du déni de tout récit concernant cet événement. C'est sans doute le pire du pire, c'est-à-dire l'oblitération complète de la réalité. Mais j'ajouterais qu'il y a des raisonnements de l'autre côté qui me paraissent empêcher un accès à la factualité et empêcher notamment des émotions. Car tout cela, c'est du blocage émotionnel, évidemment. Ce ne sont pas les émotions qui sont les ennemis des faits. Ce sont les blocages émotionnels que l'idéologie et les raisonnements et les mécanismes de pensée favorisent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, maintenant, sont confortables dans le raisonnement. Le Hamas est caché dans la population civile. Il y a des bombes dans les écoles. Alors, il est normal, logique, dirais-je, de tuer des civils. Je ne dis pas que c'est simple, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je crois que le doute et l'émotion peuvent être mises de côté par des raisonnements un peu mécaniques. Tout ça n'a rien à voir avec des récits, ça a à voir avec des mécanismes de pensée et des blocages émotionnels.
Oui, alors je laisse la parole à Eugénie Bastier. Enfin, je voudrais quand même dire que pour l'armée israélienne, il n'est pas normal de bombarder des civils, parce que si c'était normal, elle n'enverrait pas des flyers dans les immeubles qui sont destinés à être bombardés. Elle ne demanderait pas à la population civile du nord de Gaza de quitter les lieux. Il n'y aurait pas de corridor humanitaire protégé par ces soldats. Donc la mort de civils existe, elle pose un problème moral, mais on ne peut pas dire qu'elle soit inclue comme une sorte de finalité par l'armée israélienne. Eugénie Bastier.
Je crois qu'il y a d'un côté, il y a la question de la fake news. On l'a vu pendant l'hôpital, le bombardement de l'hôpital de Gaza, où certains ont continué, notamment par exemple la députée Mathilde Panot, qui n'a jamais effacé son tweet en qui parlait de 500 morts palestiniens, continuer malgré le démenti des experts à propager une nouvelle qui était fausse, qui était que l'armée israélienne aurait bombardé un hôpital et fait 500 morts. Mais il y a aussi, et c'est l'expression est de vous Alain Finkielkraut et je vous la reprends, le no-news, c'est-à-dire le fait de ne pas parler de certaines nouvelles qui dérangent. Et vous parliez des faits dérangeants. Moi, je pense en tout cas que beaucoup de faits en France ont été occultés de peur de faire le jeu de l'extrême droite. Et je ne connais pas de faits qui ont été occultés de peur de faire le jeu de l'extrême gauche. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Et je prends un exemple, par exemple, cette semaine, très concret. Dans Le Monde, vous avez eu une agression à Bordeaux d'un adolescent de 16 ans poignardé en pleine journée dans le centre-ville de Bordeaux par un assaillant, témoignage recueilli dans le Figaro sous forme de récit. Un assaillant, je cite la personne, vêtu d'une tenue de sport et au trait maghrébin en plein centre-ville de Bordeaux. Le Figaro a fait un article, ils ont choisi de raconter ce fait. Ce fait n'a pas été raconté dans Le Monde. C'est un choix. En revanche, Le Monde a choisi de monter une cellule d'investigation sur les féminicides en y associant une dizaine de personnes. Le Figaro, auquel j'appartiens, a choisi de créer une cellule sur les faits divers liés à la délinquance et à l'insécurité. Ce sont des choix, on choisit des faits effectivement de raconter. Mais il y a aussi une volonté d'occultation qui me semble aussi présente dans la gauche intellectuelle, dans la gauche médiatique, de peur de justement de réveiller l'extrême droite ou de faire le jeu d'eux, qui me semble extrêmement dommageable. Première chose, et deuxième chose, je crois aussi qu'en effet, vous parliez d'idéologie, il y a certaines idéologies qui aujourd'hui dénient totalement les faits. Je pense par exemple à la théorie du genre, et j'en parle dans la dictature des ressentis, le fait de dire je suis un homme ou je suis une femme en dépit de toute réalité factuelle, juste sur la base d'un ressenti, d'un sentiment intérieur, me semble effectivement un déni des faits. Et pour moi, c'est la même chose, Trump qui dit j'ai gagné l'élection présidentielle alors qu'il l'a perdue, et de dire je suis une femme alors qu'on a un pénis entre les jambes, pardon, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est un refus du réel. Et Judith Butler et Donald Trump partagent, je pense, un rejet de la factualité. Et je pense qu'on insiste beaucoup sur le complotisme, les fake news, quand elles viennent de l'extrême droite, quand elles viennent du trumpisme. On insiste moins quand elles viennent de la gauche postmoderne, déconstructiviste, critique. Et je cite Maurizio Ferraris, un philosophe italien dans Post-vérité et autres énigmes, qui dit « Si l'éloge postmoderne du mensonge n'a rien à enseigner aux populistes, ils désarment leur adversaire. » Il montre bien comment la théorie critique, en ayant cette espèce d'idée qu'il y a un pouvoir derrière chaque structure, cette espèce d'idée de dévoilement, nourrit aussi une forme de complotisme. Et il charge aussi la gauche intellectuelle une certaine responsabilité dans cette défactualisation du monde.
Géraldine Milman.
Je déplore absolument les cas où un fait dérangeant pour la gauche ne soit pas relaté. Sur ce point, je n'ai rien à vous opposer. Je le déplore.
Mais vous reconnaissez que ce déni existe et peut-être d'ailleurs est ce déni qui, au bout du compte, fait le jeu de l'extrême droite. C'est-à-dire, pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite, on lui fait le cadeau du réel. On peut et donc, oui, on fait le jeu de l'extrême droite.
Je suis d'accord que ça peut faire le jeu Géraldine de l'extrême droite. Je pense que tout existe, le meilleur et le pire dans les médias. Mais excusez-moi, je vais quand même parler aussi du rapport à la factualité dans des médias de droite, et en particulier sur CNews. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Il y a quelques semaines, Pascal Pro avait un auditeur à Europe 1 qui lui disait qu'il y a quand même eu un attentat en France l'année dernière qui n'avait pas été commis par un musulman. Pascal Pro s'est énervé, mais tous les attentats de ces dernières années sont commis par des musulmans. Manque de chance, il y en a bel et bien eu un l'année dernière commis par un chrétien. Donc il y a un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres commis par des musulmans, mais je crois que les journalistes ont une exigence de factualité, de précision factuelle. J'en donnerai d'autres. Sur CNews, vous avez quand même des faits énormes qui sont balancés au public. Jean-Claude Dacier, quand il dit tous les musulmans...
Il a été sanctionné pour ça.
Mais il a été sanctionné, mais enfin, il est toujours à l'antenne.
Sanctionné temporairement. Voilà. Comme Guillaume Meurice,
d'ailleurs. Les musulmans s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est très gentil pour tous ces gens d'origine maghrébine, musulmans, familialement, qui sont profs de collège, profs de lycée, qui enseignent en France, qui servent la République et l'école. Il y en a. Je pense aussi que Zemmour, qui a quand même opéré sur CNews, avait un rapport à la factualité. On n'a pas assez dit son délire sur Vichy. C'est-à-dire que certes, les Français...
On l'a dit beaucoup.
On l'a dit beaucoup, pardon.
Mais il y a quand même un point factuel qu'on ne dit jamais. C'est que si des juifs étrangers plus que des juifs français ont été déportés, laissez-moi finir, c'est aussi parce que Vichy a dénaturalisé un nombre très important de juifs qui avaient été naturalisés, notamment en 1927. Donc c'est facile de dire c'est des apatrides. Et je rappelle aussi qu'il y a eu une rafle en zone sud bien avant qu'elle soit envahie par les Allemands, donc c'est vraiment Vichy, le 26 août 42, où il y a eu 6000 juifs apatrides, étrangers. En réalité, beaucoup d'entre eux avaient été dénaturalisés. Donc quand même, vous avez aussi un grand média de droite, un grand groupe qui a un rapport à la factualité tout à fait malade.
Alors,
Non, mais je peux répondre en donnant des exemples. Je pourrais donner aussi des exemples sur le service public, ce qui me semble encore plus grave, parce que le service public est financé par les impôts des Français. Quand vous avez l'anthropologue Priscille Toureil qui est reçue, par exemple, en majesté sur France Culture, alors qu'elle affirme que le dimorphisme sexuel est lié au fait que les hommes préhistoriques confisquaient la viande dans les cavernes, ce qui est une aberration scientifique, elle est reçue plusieurs fois sur les médias publics pour exposer ses thèses sans contradiction. Voilà, c'est aussi, ça peut, je peux vous renvoyer ça, mais je pense qu'on pourrait se renvoyer comme ça la balle longtemps. Et c'est intéressant le ce que vous prenez sur Zemmour, sur la question. Je suis en désaccord complet avec les discours d'Éric Zemmour sur Vichy, évidemment, mais je pense que c'est un débat qui peut avoir lieu, qui peut être discuté. On peut avoir un débat historique parce que je ne pense pas que Zemmour ni les faits ni leur il donne une interprétation des faits qui, à mon avis, est fausse, en tout cas très discutable. Mais est-ce qu'il doit, il devrait ne pas pouvoir l'exprimer, ne pas pouvoir être contredit publiquement? Est-ce que cette question devrait se régler devant les tribunaux plutôt que d'être débattue dans l'espace public? Je n'en suis pas certaine, parce que d'abord, je pense que ce serait contre-productif. Et en plus, je pense que la liberté d'expression comporte des risques. Et parmi ces risques-là, c'est en effet la circulation de mensonges. Mais je pense que ce risque-là doit être pris. C'est le risque de nos démocraties.
Sur ce point, nous sommes d'accord, voilà. Vous savez. Oui. Il y a bien une chose que j'ai toujours eue en horreur, et tous mes travaux de recherche le montrent, c'est la censure. Je n'ai pas la même lecture que vous de ce que on appelle aujourd'hui, d'ailleurs un peu rapidement, les mouvements woke. Je pense qu'il se joue aussi des choses importantes et intéressantes. Il se joue des choses du côté de la défense de certaines minorités. Je ne suis pas dans une condamnation unilatérale, mais par contre, ils ne montent pas de leur côté dans les actes qui censurent des propos qui leur déplaisent. J'ai en horreur le recouvrement des faits et l'interdit de parler qui se met en place à l'égard de gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc sur ce point...
Vous êtes tout à fait d'accord.
Je suis tout à fait d'accord.
Mais alors que vous trouviez un intérêt, même partiel, au mouvement woke, Géraldine Mühlmann m'étonne, parce que nous vivons avec tout ce qui se passe entre Israël et la Palestine, un véritable dévoilement. Ce sont des woke qui, en Amérique, arrachent les affiches des otages, et c'est pas des woke exagérément woke ou des woke pathologiques. Le wokisme nous convainc que le mal, ce n'est pas seulement le capitalisme, c'est l'impérialisme.
Et l'impérialisme occidental.
Oui.
C'est vieux comme l'extrême gauche.
Voilà.
Quand vous aviez 20 ans, Israël, c'était le capitalisme, le mal, pour beaucoup de gens. Donc cette bêtise de ne pas complexifier les données historiques, elle est vieille comme tout.
Oui, elle est vieille comme tout. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle prend des proportions absolument délirantes, puisque ce sont les woke qui disent de la rivière à la mer... libérons la Palestine, de la rivière à la mer, donc il n'y a plus de place. Puisque Israël apparaît comme une entreprise coloniale et qu'Israël devient, si vous voulez, la quintessence de l'impérialisme occidental. Alors que c'est un tout petit pays, minuscule, qui a d'ailleurs, qui ne cesse de se rétrécir. Retrait du Sinaï, retrait du Sud-Liban, retrait de Gaza. Cela n'empêche pas, vision absolument fantasmatique, et l'antisémitisme apparaît comme le stade suprême du wokisme aujourd'hui. Et on ne peut plus le nier. C'est une vérité qui nous explose à la figure.
Vous voulez que je réponde là? On ne va pas faire l'émission sur Israël.
Non, mais vous m'avez forcé.
J'ai dit que j'avais en horreur, absolument la censure sous toutes ses formes. Il y a une deuxième chose que j'ai en horreur absolument, c'est l'ignorance. Et je pense qu'il y a toujours eu des militants qui était très ignorant, l'histoire d'Israël. Il y a des colons, il y a des mouvements de colons problématiques, il y a un pouvoir problématique en Israël,
absolument,
selon moi, mais on ne peut pas réduire l'histoire d'Israël à l'enjeu du colonialisme. Donc les simplistes, les mécanismes de pensée que j'évoquais tout à l'heure, ce qui permettent de ne pas se confronter à la réalité, l'ignorance historique, qui n'est pas non plus le monopole de notre époque, je le combats sous toutes ses formes, à gauche comme à droite. Je voulais juste dire que de sensibilité, il m'arrive aussi de réfléchir à ce qui pourrait, dans des mouvements où il y a des problèmes, apporter à l'avenir des réflexions intéressantes. Je ne suis pas dans la condamnation absolue univoque, même si je suis très énervée souvent.
Mais pour moi, le wokisme est un complotisme chic, un complotisme des élites, c'est-à-dire qui consiste à justement voir aussi le monde organisé avec des forces occultes, enfin occultes, par exemple le patriarcat, dire qu'il y aurait une organisation qui s'appellerait le patriarcat. C'est vouloir faire rentrer la réalité dans, dans une grille, c'est vouloir donner une dimension, une cause unique à tous les maux qui sont protéiformes dans la société. Et donc effectivement, on est là dans l'idéologie. Et ce que j'ai appelé, moi, dans cette formule dictature des ressentis, qui me semble caractériser notre temps, c'est ce mélange de relativisme et d'intolérance. Parce qu'on pourrait se dire que le relativisme de type montaignien pourrait nous conduire à une plus grande tolérance. Après tout, si toutes les opinions se valent, eh bien chacun peut accepter les opinions d'autrui. Mais ce qui caractérise notre temps, c'est justement un relativisme. L'idée, on nous inculque depuis le berceau que la vérité n'existe pas, qu'il faut avoir l'esprit critique, qu'il faut déconstruire, qu'il n'y a pas de vérité. Et en même temps, une intolérance, c'est-à-dire que la vérité que je ressens comme ma vérité ne saurait être remise en question, remise en doute, bousculée, sous peine de me causer des blessures intimes. La peur d'être blessée, des opinions qu'on entendrait dans le débat public seraient en soi des blessures à l'intimité des personnes. Et c'est ça qui me semble caractériser le débat, ce mélange entre une intolérance et un relativisme complet.
C'est tellement juste que j'ai écrit moi-même en 2015 un livre sur la liberté d'expression où j'emploie cette expression aussi, qui est que nous sommes à l'heure du grand ressenti. Tout le monde est blessé. La liberté en danger, la liberté est en danger parce que tout le monde exprime sa blessure. Or, toutes les défenses intelligentes de la liberté d'expression reconnaissent, y compris dans les cours de justice, qu'elle peut blesser, qu'elle peut choquer, mais que ce n'est pas à soi seul une raison suffisante pour interdire ou pour sanctionner. Il faut d'autres critères supplémentaires. Donc, je l'ai rappelé moi-même, la liberté d'expression est un de mes objets. Mais je voulais juste dire qu'il y a énormément de bêtises, d'ignorance et de volonté d'interdire et de censurer dans un tas de mouvements aujourd'hui. Et aussi à gauche, pourquoi ne pas le reconnaître ? Simplement, je fais encore partie des gens qui ont remarqué, compris mieux qu'avant dans les mouvements actuels, qu'il y a tous les jours des transsexuels qui se font buter, des homosexuels qui subissent encore des humiliations terribles, des féminicides.
Des transsexuels qui se font tuer.
Oui,
dans
le monde. Dans le monde, oui.
Et
là,
Pas tellement en France.
Et je rappelle que.
Et les femmes, il y a des féminicides qui se font. C'est un mot d'ailleurs que je n'ai pas employé ici.
Les paradoxes du wokisme, justement, c'est que c'est le soutien à la cause palestinienne et le fait de mouvements et de mouvements LGBT, alors que un grand nombre d'homosexuels de Cisjordanie se réfugient en Israël parce que
c'est pas le Hamas qui va être gentil avec les homosexuels, les femmes et les transsexuels.
L'autorité palestinienne non plus. Mais je disais en commençant, les faits ne sont pas têtus. Et comme vous l'écrivez dans votre premier fragile, dans votre premier chapitre, pardon, Géraldine Mühlmann, ils sont fragiles. Mais il me semble que c'est vrai aussi pour les chiffres. Eugénie Bastier, vous citez le livre de Baudelot et Establet. Très intéressant. Le niveau monte avec sous-titre « Réfutation d'une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles ». Le livre a été publié en 1989 et il est bardé de chiffres et de statistiques. Ce livre qui maintenant nous fait pleurer ou nous fait rire. Le niveau s'est totalement effondré à l'école et on en avait déjà tous les signes en 1989. Et là, ça me fait penser à une phrase magnifique du poète Winston Oden. Il arrive que les mots du menteur rougissent, les chiffres du statisticien n'ont jamais honte. C'est-à-dire, on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques et notamment leur faire dire que nous ne voyons pas ce que nous voyons. Par exemple, l'immigration n'a pas augmenté, tout est pareil qu'avant, rien n'a bougé. Tout cela, c'est de l'ordre du fantasme ou du sentiment. On se sent, si vous voulez, un peu perdu. C'est-à-dire, on va se réfugier dans les statistiques pour trouver des faits objectifs et les statistiques elles-mêmes nous interdisent de voir ce que nous voyons. Eugénie Bastier.
Oui, le mot sentiment est juste, parce que vous savez qu'il y a cette expression qu'on a beaucoup entendue dans le débat public, qui est l'expression sentiment d'insécurité, qui était dans la lignée d'ailleurs de Bourdieu, qui consistait à dire que finalement le fait que les gens ne se sentent pas en sécurité, notamment en France, serait une fabrication médiatique à coup de nouvelles anxiogènes qui auraient fabriqué l'idée et le sentiment, installé dans le débat l'idée d'insécurité qui n'existerait pas de façon factuelle. Je crois qu'on est là face à un exemple de déni de réel, puisque effectivement l'insécurité est une réalité en France, et évidemment on peut citer certains chiffres, mais c'est vrai que c'est intéressant la place qu'a pris la statistique dans le débat public, qui est absolument effarante et qui est devenue l'ultima ratio de nos débats. C'est comme ça qu'on tranche définitivement un sujet. Olivier Rey d'ailleurs avait écrit un très beau livre, Quand le monde se fait nombre, où il parlait justement de cette manière dont nous avons de nous rapporter au réel et de justifier nos propres sentiments, nos propres analyses du monde par des chiffres, par des statistiques en permanence. Je crois qu'il faut qu'elles restent à leur juste place, qu'elles sont effectivement utiles pour valider une partie de l'argumentaire, mais qu'elles ne peuvent absolument pas remplacer effectivement d'autres moyens d'accéder au réel, le récit,
notamment nos yeux,
la littérature, les yeux effectivement, et le pouvoir de l'écrit. Et ça, vous le dites très bien dans votre livre, et je suis totalement d'accord avec vous là-dessus, parce que je crois que l'une des caractéristiques de notre débat public aujourd'hui, c'est aussi la disparition de l'écrit au profit de l'image, comme l'a très bien montré Régis Debré dans du passage de la graphosphère à la vidéosphère. C'est-à-dire l'image et le chiffre en fait se donnent la main, et ce qui est le perdant dans cette histoire, c'est le mot, le verbe, la parole, le récit. Et je crois effectivement que c'est ce que nous avons perdu aujourd'hui. Alors, est-il possible de le rétablir? C'est une vraie question, parce que dans l'écosystème médiatique et technologique dans lequel nous sommes, ce sera sans doute compliqué. Mais je crois que c'est ça que, en tout cas, nous devons mettre en valeur le fait que ce que nous avons perdu, c'est-à-dire cette parole face aux chiffres et face à l'image.
Charline.
J'essaye d'explorer ce qui est un fait, et j'ai un chapitre qui s'intitule « La factualité et le corps », et l'ensemble de mon livre défend l'idée qu'un fait est fondamentalement sensible, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la figure du reporter, mais il y en a d'autres aussi, mais celle-ci est particulièrement importante en démocratie, est une figure, est un corps, et d'abord un corps qui va sur place, qui regarde, qui écoute, et je crois profondément à ce rapport sensible au fait, la question qui suit étant celle du partage du sensible par d'autres, ce qui exige un travail pour éviter l'hypersingularisation du sensible du reporter. Il faut qu'il apprenne à être quelque chose comme un corps universel. C'est idiot de critiquer ce genre de démarche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont efforcés de réfléchir à universaliser, à rendre commun ce qu'ils sentaient, et malheureusement dans l'idéologie ambiante à chacun ses faits, on a oublié cette très belle histoire du journaliste, des reporters qui ont réfléchi à universaliser leurs sensations, les transmettre. Voilà. En ce qui concerne les statistiques, néanmoins, je pense que nous sommes dans une hystérisation de cette question, parce que nous, au lieu de discuter de la manière dont elles sont fabriquées, nous jetons des anathèmes, parfois nous avons raison, mais comme le dit Alain Desrosières, que je cite volontiers dans La politique des grands noms, ce livre de 1993, il y a eu une période, notamment en France, jusqu'aux années 1980, où on discutait des chiffres entre syndicats, patronat, administration, on essayait de chercher dans les grands nombres du commun, et d'ailleurs il fallait introduire du sensible aussi. C'est vrai. Nous sommes aujourd'hui dans un désaveu total de la statistique, qui permet à chacun de balayer d'un revers de main sans même justifier plus avant certains chiffres. Je crois aussi. Vous voyez, Alain Finkielkraut, nous avons déjà eu sur d'autres antennes un débat sur l'immigration, par exemple. Ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous donnez les vrais chiffres officiels. C'est-à-dire que vous savez qu'on est à 280 000 immigrants par an en ce moment. À l'époque où je vous ai interrogé, c'était peut-être plutôt 220 ou 230. Et vous dites les choses, vous ne commencez pas à balancer. Il y a au moins 400 000 entrées ou 450 000, comme le fait par exemple Éric Zemmour, puisqu'il met dedans les clandestins, comme si lui connaissait le chiffre des clandestins. Et il gonfle, et il gonfle, et il gonfle. Et en fait, au moins, vous partez d'une factualité statistique qui est tout de même fiable. Après, on juge et éventuellement, on s'affronte.
Alors la factualité aussi nous dit qu'il y a eu 6 millions de nouveaux arrivants en Europe l'année dernière.
Non, mais juste sur les statistiques, sur les chiffres, c'est très intéressant parce que c'est à la fois les chiffres et l'image sont au cœur, pardon de revenir encore au conflit israélo-palestinien, mais c'est vrai qu'on a cette bataille des chiffres. D'un côté les morts à Gaza, d'un côté les morts israéliens, etc. Et ce qui m'intéressait, qui faisait écho à votre livre, c'est la manière dont le gouvernement israélien a décidé de faire regarder les images des atrocités du Hamas à des journalistes en les faisant venir dans une salle, en étant un peu dans le vieux monde de ce que vous appelez du corps sensible, c'est-à-dire on va montrer à des journalistes qui sont dépositaires d'une confiance médiatique des images, on ne va pas les balancer ces images sur les réseaux sociaux, on va les montrer à des gens qui ensuite vont en faire le récit. Il y a eu par exemple dans Libération un récit minute par minute des vidéos, mais ça n'a pas le même effet. Et Israël perd la guerre médiatique parce que justement, il ne met pas les images, alors que le Hamas à Gaza ne se prive pas de mettre des images d'enfants tués sur les réseaux sociaux qui sont effectivement abominables, qui sidèrent, qui empêchent le jugement, qui les blocages émotionnels dont vous nous parlez. Et effectivement, là, il y a une asymétrie totale, je trouve, dans la manière de communiquer et qui, dans le monde dans lequel nous vivons, est un handicap pour Israël. Ils ont choisi de jouer ce jeu du journalisme à l'ancienne, de la confiance dans des médiums, dans des personnes particulières qui ont la confiance du public. Mais en fait, ils perdent la guerre des réseaux sociaux, ils perdent la guerre des faits. En raison même pour avoir suivi ce que vous préconisez, c'est-à-dire la question du récit. Donc ça pose une question vertigineuse.
Denis Charby, dans Le Libération de jeudi, constate avec effroi la rapidité avec laquelle Israël est redevenu coupable. Mmh. Et Denis Charby est un militant très déterminé du camp de la paix. D'ailleurs, il continue à marquer son espérance dans la solution des États. Mais il est vrai que Israël est en train de perdre la guerre des images et Israël redevient coupable. Mais je voudrais poser une autre question. À partir de votre livre, Géraldine Munman, vous citez le journaliste Charles Denis et il dit « Ne mélangez aucun commentaire éditorial ou jugement discutable aux informations. » Gardez vos sympathies et aversions en dehors de votre papier. C'est cet idéal d'impartialité, et c'est vrai. Il y avait, naguère, les éditoriaux et les articles. Ne pensez-vous pas que cette époque est révolue? Il me semble que, dans Le Monde, par exemple, tous les articles, peut-être des gens de droite aussi, j'en sais rien, tous les articles sont éditorialisés aujourd'hui. Donc on a l'impression que cette dichotomie nécessaire est en train de disparaître. Est-ce que je me trompe?
Je pense que c'est pire encore à la télévision. Après les journaux, il m'arrive en effet d'avoir cette impression. Je suis contente que vous citiez ces propos d'un editor, comme on dit aux États-Unis, c'est un superviseur des reporters qui essaye de les faire mieux voir et mieux écrire pour que justement ce qu'ils disent puisse être reçu par le plus grand nombre. De la fin du 19e siècle, dans une rédaction de la fin du 19e siècle aux États-Unis, parce que c'est le projet du journalisme américain et c'est l'idéal. Il y a eu des idéaux dans le projet du journalisme moderne, qui souvent sont balayés par ignorance d'un revers de main en disant les journalistes sont pas fiables, ils sont au service des puissants, ils sont au service de leurs idées et que sais-je encore. Il y a eu une démarche pour le faire. Si j'ai écrit ce livre à l'infini, c'est parce que je pense que ça va très mal, que la petite musique du « à chacun ses faits », de toute façon la notion de fait commun n'a pas de sens, nous n'avons des faits qu'en fonction de nos opinions, eh bien assumons la chose, y compris dans l'écriture, tout cela se banalise et j'ajouterais que
ça se banalise aussi dans les grands journaux, c'est ça.
C'est-à-dire
ça,
je le crains.
C'est la rumeur, disons, des réseaux sociaux. Et il est vrai que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses, mais de voir ce principe de la distinction des faits, des articles des éditoriaux bafoués par les journaux de référence, ça fait encore plus peur.
C'est terrible, hein. Et c'est de nouveau l'invasion du discours par rapport au récit. C'est-à-dire que le récit est envahi de discours. Et je crois que c'est le gros problème de notre époque. C'est-à-dire que l'opinion est reine et finalement, peu à peu, s'introduit et s'installe cette idée que ce qui est important, c'est moins les faits que ce qu'il faut en juger.
Oui, d'ailleurs, oui, mais ça me rappelle, cette réflexion de David Monihan, un homme politique de l'époque, Kennedy, qui disait « Tout le monde a le droit d'avoir ses propres opinions, mais pas ses propres faits.
Oui. »
Et si tout le monde a ses propres faits, la liberté d'opinion elle-même n'a aucun sens, comme l'a montré Arrêt.
Oui, mais pardon. Vous savez ce que Albert Camus disait « Respirer, c'est juger », on pourrait dire « Informer, c'est choisir ». On choisit toujours de rapporter un fait plutôt qu'un autre. Il y a toujours eu des fake news. Le New York Times, dans les années 20, n'a pas rapporté le holodomor stalinien parce qu'il y avait un journaliste, d'ailleurs, qui a reçu le prix Pulitzer, qui était complètement communiste, qui a tué certains faits. On peut parler des mensonges sur la guerre en Irak. On peut parler. Donc, effectivement, je pense que cette promesse du journalisme était une promesse, effectivement, utopique, parce qu'en réalité, elle ne pouvait que décevoir.
Mais c'était une idée régulatrice, quand même. Oui, or, on a l'impression que...
Je pense que cette idée régulatrice, elle est toujours quand même au cœur des principaux journaux, en tout cas, médias écrits aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que les médias écrits n'ont plus la puissance qu'ils avaient autrefois. Et qu'ils sont,
la télé, le problème aussi, et les réseaux sociaux.
Bien sûr, donc je pense que, en tout cas, la promesse du journalisme écrit, qui était effectivement cette promesse de récit, cette promesse d'exactitude, qui n'est permise que par l'écrit en réalité, parce que l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'être dans la nuance, la possibilité de nuancer, d'élucider les désaccords de façon détaillée n'est possible qu'à travers l'écrit, et fatalement le règne de l'image conduit à la polarisation. Et moi, ce qui m'inquiète effectivement aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a un pluralisme, un pluralisme, que ce que chacun a ses faits. En fait, les médias traitent chacun une portion de la réalité. L'entièreté de la réalité est couverte, mais elle est couverte de façon segmentée. Vous allez effectivement à CNews, on va parler plus d'insécurité, des problèmes liés à la délinquance, à l'immigration. Sur le service public, on va parler plus d'écologie, mais on va taire, on ne va pas parler des sujets d'immigration ou de délinquance. Sur la télé publique également. Donc je crois que c'est ça qui est problématique, c'est que chacun finalement est enfermé dans son silo d'informations, et il est très difficile d'en sortir. Cette exigence d'empathie, de pouvoir sortir de ses propres certitudes, elle est contraire d'ailleurs à la fabrique même de notre cerveau, puisque nous avons ces biais cognitifs qui nous poussent à chercher toujours des confirmations. Et je crois qu'effectivement, c'est là le véritable danger. C'est pas effectivement la censure, c'est l'archipélisation du débat, là, sa fragmentation, qui fait que chacun n'a accès qu'à une partie de la réalité.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, la conséquence en est, c'est cela que je veux parler dans ce livre, c'est ce que j'appelle la virtualisation du monde, puisque si chacun a son monde, il n'y a plus de monde commun, et les faits des autres nous apparaissent faux, ou en tout cas sans pertinence, et nous sommes dans un processus grave, je crois, de virtualisation du monde.
Alors, je voudrais revenir sur la question du service public, Géraldine Mulman, parce que vous critiquez vertement CNews. Ça mange pas de pain. C'est sans doute nécessaire, mais ça mange pas de pain. Et le service public, cette propagande insidieuse qui sévit, ça devrait quand même aussi susciter votre inquiétude. Il paraît que Jean-Claude Dacier a été sanctionné pour ses propos sur les musulmans.
Pendant un laps de temps,
ce qui est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que demain à la manifestation, l'imam Chalgoumi viendra sous le slogan « Je suis juif ». L'imam de Drancy, très isolé dans sa communauté, mais très courageux, et ça mérite d'être souligné. Mais, Géraldine Mulman, dans votre livre, vous citez un moment une journaliste, Séverine.
Oui.
Hein, et elle fait un reportage sur le procès Zola en février 98. Et lors de ce procès, l'avocat de Zola, Laborie, se fait tirer dessus.
Dans le procès Dreyfus dans Révision à Rennes. Elle a couvert les deux procès, vous avez raison.
Ah donc voilà,
c'est le procès l'avocat de Dreyfus, Laborie, voilà.
Vous avez raison. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que quand on parle des faits, il faut être exact.
C'est une contrainte que nous avons.
Ça serait, voilà. Donc Laborie se fait tirer dessus. Et la libre parole de Drummond a ce trait d'humour. Oui. As-tu vu le trou de balle? Le trou de balle? As-tu vu le trou de balle à Laborie? Et là, ça m'a immédiatement fait penser à Guillaume Meurice. Je me suis dit, voilà, il est nazi sans prépuce, Netanyahou. Il a reçu qu'un avertissement, semble-t-il. Et lui-même va porter l'affaire en justice. Mais il semble très soutenu à l'intérieur de la maison, qui est un peu la mienne. France Culture, France Inter, c'est Radio France. Et donc, on ne pourra guère aller plus loin. Est-ce que ça ne témoigne pas quand même d'une dérive, d'abord, d'une sorte de calomnie de l'humour, parce que l'humour, ça n'a jamais été ça, mais d'une dérive aussi du service public quant à, je sais pas, quant à l'exactitude, quant à l'objectivité, quant à l'impartialité et un peu quant à l'intelligence.
Je crains quand même, Alain Ficalcro, qu'on mélange deux choses. Vous voulez me faire parler de l'humour et des opinions et des visions du monde qui s'expriment dans un pseudo-humour.
Mais c'est à cause du trou de balle de la Borie.
Oui, mais le trou de balle de la Borie, je l'évoque pour précisément dire que le journalisme moderne a voulu rompre avec ces mots qui tuent, ces mots qui sont censés faire rire, ces mots qui blessent, ces opinions.
Mais ça revient dans les émissions d'information.
Mais que dit Séverine? Que dit Séverine? Séverine dit, je vous laisse à Paris, messieurs. Je vous laisse. Moi, je suis à Rennes. Je suis au procès Dreyfus. Je suis là avec mon corps. J'essaye d'entendre, de ressentir chacun des témoignages que j'entends dans ce procès. J'ai la Borie face à moi. Il y a une scène poignante où elle a la Borie, qui n'est pas inconscient et qui va d'ailleurs s'en sortir, devant elle. Elle raconte cet échange. Et moi, je n'ai pas fait ce livre pour donner des bons et des mauvais points à l'expression des opinions en ce moment. J'ai fait un livre pour dire qu'il y a un autre espace à l'infini quelque autre, qui est celui des faits, qui est celui des rédactions. Et si ça vous fait plaisir, on va parler de Meurice. Mais ma question n'est pas celle-là. Ma question est celle de comment on fabrique un journal avec des sélections de faits qui fassent la place, y compris aux faits inconfortables, peut-être pour l'opinion dominante de la rédaction. Ma question est celle du reportage de terrain et précisément, vous n'oublierez pas que j'ai cité tout cela dans un chapitre où je retranscris une scène entière chez Cyril Hanouna de rumeurs,
Oui.
À propos de sang d'enfants que les puissants hollywoodiens, etc.
Cette scène est hallucinante.
C'est hallucinant.
Hallucinant.
Et donc c'est contre les rumeurs, les opinions fausses, les délires plus ou moins humoristiques que j'écris ça pour dire le journalisme moderne s'est construit contre
donc le
tout
délire
cela.
Humoristique a sa place dans votre critique.
La
puisque
question,
le délire Hanouna,
une radio comme
le délire Meurice
Radio
aussi.
France, c'est des programmes et une rédaction. Vous le savez aussi bien que moi.
Oui.
Et ce livre a pour origine une note qui m'a été demandée en 2022 par la direction de l'information de Radio France, qui précisément, et c'est aussi une réponse à ce que vous avez dit tout à l'heure, était soucieuse de passer pour trop à gauche, trop partiale, et qui voulait réfléchir sur l'impartialité. Donc quand même, ça c'est relativement admirable, même pas relativement, c'est absolument admirable qu'ils aient voulu réfléchir à l'impartialité. Mais c'est un problème de l'information, de la rédaction. Je ne vais pas commencer à jeter les bons et les mauvais points dans le domaine des programmes, mais qui est un autre sujet.
Moi, je pense que le succès de CNews est indexé sur le déni du service public sur certains sujets, qu'ils sont venus remplir une place, parce que le goût de la vérité est quand même ancré et universel, je pense. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à penser que quand même des journaux qui diront la vérité continueront à trouver un public en dépit du monde dans lequel nous nous trouvons, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront ce goût de la vérité, et même ce plaisir de la vérité. Et pour revenir à votre question, je pense qu'effectivement, la mission du service public, il me semble, c'est d'informer, de cultiver, c'est pas de ricaner. Et effectivement, on peut se poser la question, dans un service public qui est soumis, surtout dans une période de tension et de polarisation, où effectivement cette exigence d'impartialité est de plus en plus forte, et c'est pas pour rien que Radio France vous a posé la question et s'est posé la question, c'est parce qu'effectivement il y avait cette critique qui montait, je trouve que c'est irresponsable de continuer à financer avec de l'argent public des gens pour ricaner. Je trouve que ce n'est pas le rôle de l'argent public, que ce n'est pas le rôle de la radio publique. Moi je suis contre la privatisation de la radio publique, contrairement à d'autres gens à droite, parce que j'estime que France Culture a une place irremplaçable dans le service public qu'on ne pourra jamais faire dans le privé des émissions de la qualité de ce qu'il y a sur France Culture, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, parce qu'il y a l'exigence de la publicité, etc. Donc je pense que ça a une place. Par contre, le ricanement n'a pas sa place sur le service public. Les humoristes, le divertissement pur, qui consiste d'ailleurs à se moquer à chaque fois d'une partie de la population, parce que c'est ça, n'a pas ça. J'adore Charlie Hebdo. Non, j'ai des critiques à Charlie Hebdo. Je trouve que c'est très bien que Charlie Hebdo existe. Un Charlie Hebdo subventionné par les impôts des Français, non.
Et je rappelle que le directeur de Charlie Hebdo a dit ce qu'il fallait penser du Grimmeris, alors même que celui-ci se réclamait de l'humour Charlie Hebdo. Géraldine Munemann.
On peut parler des opinions, des dérives, de ce qu'il faut faire, sanctionner, ne pas sanctionner. L'idée du ricanement, c'est le mot que j'emploie effectivement pour décrire certaines scènes qui ont lieu aussi dans des médias de droite, commencer par CNews, ça ricane beaucoup. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est tellement plus grave dans le service public que dans des grands groupes puissants et très écoutés. C'est grave aussi, si vous voulez, certaines formes de ricanement, c'est grave aussi.
Ah ben, je pense que touche pas à mon poste, c'est grave.
Bon, on est d'accord.
Touche pas à mon poste, c'est grave.
La scène que vous décrivez.
Mais je suis juste désolée de dire que ce n'est pas l'objet de l'analyse que je propose dans ce livre. Je dis au contraire, si je l'évoque, d'abord c'est sur peu de pages, il ne faut pas que les auditeurs se méprennent. J'ai un chapitre, 3-4 pages sur la situation actuelle où j'évoque en effet certaines chaînes. Ce livre, et d'ailleurs j'ai aussi un mot pour dire qu'il ne faut pas que en faisant de l'anti-CNews, on fasse comme CNews, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est ses invités, ses faits, et on ne parle jamais de ce dont parle CNews. Je suis contre ça. Je vous ai dit, j'ai en horreur la censure. Donc, mon objet, c'est les faits, pas le règne de l'opinion, des humeurs et des ricanements. Hein.
Et c'est votre objet, c'est aussi, je peux dire, Ginny Bastier, votre objet, parce que contre la dictature des ressentis, vous défendez aussi, me semble-t-il, les vérités factuelles,
oui,
en tant que journaliste.
Oui, mais je défends les vérités factuelles, évidemment. Après, je pense que l'objectivité journalistique est un mythe, qu'on est toujours embarqué dans une situation. Enfin, que l'objectivité journalistique, si on veut la réaliser, ce sera ChatGPT qui la réalisera, c'est-à-dire un robot.
Vous avez vu le nombre de bêtises qu'elle dit.
ChatGPT,
oui, la version accomplie de ChatGPT, c'est-à-dire une version
moment,
qui sera
woke, hein.
Capable de synthétiser de façon totalement neutre. Non, je pense qu'un journaliste, c'est un.
Et l'impartialité, est-ce que c'est quand même pas votre idéal?
Je préfère parler d'honnêteté intellectuelle parce que l'impartialité me semble inatteignable. Nous sommes toujours partiaux et j'aimais bien d'ailleurs ce que disait Raymond Aron au sujet de la guerre en 1967, on revient encore au conflit israélo-palestinien, mais il disait c'est un conflit où inévitablement il y a une dimension affective, nous sommes situés nous avons des histoires, nous avons forcément un regard qui change d'une personne à l'autre. La question que, pour moi, la liberté de penser implique une capacité d'empathie, effectivement, de se mettre à la place de l'autre, d'essayer d'avoir conscience de ces biais-là, d'avoir conscience de d'où nous parlons, sans avoir la prétention d'être quelqu'un totalement au-dessus de la mêlée, qui serait une espèce de dieu omniscient. Il faut être dieu pour compatir à toutes les misères du monde. Il faudrait être surhumain pour être totalement objectif. Nous sommes humains, donc nous sommes forcément subjectifs. Mais je pense que le premier pas à faire, c'est la modestie par rapport à notre propre regard et l'admettre. C'est comme ça qu'on fera la reconquête de la confiance du public en tant que journaliste.
La modestie, l'honnêteté intellectuelle, en tout cas, elle vous a caractérisé toutes les deux.
Merci.
Tout au long de cette émission, merci beaucoup. Alors Géraldine Munman, je rappelle votre livre « Pour les faits ». Il est publié aux Belles Lettres. Oui. Eugénie Bastier, « La dictature des ressentis » est publié chez Plon. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Sébastien Huel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Romain Gary, encore et toujours. Mes invités seront Agatha Tuschinska et Paul Audy dans un instant Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.